Bonjour à tous. Alors que beaucoup d'entre vous pensent à leurs achats de rentrée, enquête ce dimanche sur ces industriels qui nous poussent à consommer toujours plus en réduisant volontairement la durée de vie des objets qu'ils nous vendent. On va voir ça avec vous, Anne Brunel. Bonjour.
Bonjour Jacques.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître.
Si le consommateur n'achète plus, il n'y a plus de croissance économique.
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un documentaire consacré à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, autrement dit le fait pour des industriels de limiter la durée de vie de leurs produits pour que vous et moi, nous en achetions le plus souvent possible. Alors, de notre côté, nous avons voulu voir ce qu'il en était. Nous avons enquêté pour voir si effectivement les industriels fabriquent volontairement des produits à faible durée de vie. Mais peut-être, Anne Brunel, avant de voir ce que vous avez découvert, on va poser la question à l'envers. Des produits inusables, en fait, est-ce que ça existe vraiment?
Mais oui, ça existe. J'en ai même trouvé un exemple devenu un peu légendaire. C'est celui presque incroyable d'une ampoule électrique qui dure depuis 100 ans.
Nous ne savions pas qu'elle était si ancienne. Jusqu'au jour où un journaliste a commencé à enquêter. Il a pu interroger d'anciens pompiers, alors nonagénaires, qui lui ont confirmé que l'ampoule avait brillé sans interruption depuis 1901.
Alors, vous voyez, Jacques, ce n'est pas de la fiction. Donc, pour comprendre comment une telle chose est possible, j'ai demandé à notre correspondant aux États-Unis, Frédéric Carbone, d'aller vérifier sur place. Et déjà, il a pu constater que cette ampoule, eh bien, elle est en effet bien allumée depuis un siècle.
À dire vrai, ça fait même 114 ans, 1901, que cette ampoule brille, presque en permanence, hein, au-dessus des camions de pompiers de cette caserne de Livermore, une ville de Californie. C'est un filament qui est en carbone, un filament beaucoup plus épais que ceux qui sont aujourd'hui en tungstène. Et on peut dire que plus il se réchauffe, plus il est conducteur, ce filament-là, donc il se bonifie avec l'âge. Donc il y a la fabrication qui expliquerait la longévité. Il y a aussi l'usage qu'en effet. Ce qui fatigue une ampoule, c'est de l'allumer et l'éteindre en permanence. Donc celle-là, elle est quasiment toujours allumée ou presque. C'est une lumière ouatée, une petite lumière qui flotte là sur cette caserne.
Bon, des produits qui durent, quasiment inusables, donc on sait faire. On vient de voir qu'une ampoule dure depuis plus d'un siècle. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on vend des ampoules qui grillent au bout de quelques mois?
Mais tout simplement parce que ça ne convient pas aux industriels de l'électricité. Si ça dure, vous n'achetez pas. Si vous n'achetez pas, ils ne le vendent pas. C'est pour ça que dès 1924, le premier cartel de l'histoire se met en place. Le cartel Phébus réunit les fabricants de lampes à incandescence d'Europe et des États-Unis qui s'entendent sur les prix et surtout imposent leurs règles, la règle des 1000 heures.
Vous voulez dire qu'une ampoule ne devait pas durer plus de 1000 heures, sinon on ne la vendait pas?
C'est ça, on contrôlait la durée de vie des ampoules sorties d'usine, et si ça dépassait 1000 heures, eh bien le fabricant devait verser une amende au cartel. Les archives américaines en recèlent toutes les preuves.
Oui, donc on a torpillé volontairement la production d'ampoules durables, et ça ne concerne que les ampoules?
Non, pas seulement, c'est une logique qui s'est installée partout. On peut prendre l'exemple des bas nylons. Fantastique le nylon, un matériau inusable, breveté par l'américain Dupont de Nemours, et bien finalement ça n'a pas fait l'affaire de la firme. La cinéaste allemande dont on entendait un extrait du film il y a un instant, Cosima Danoritzer, m'a raconté la suite.
Jusque les années 40, les femmes avaient des bas de soie et des matériaux très fragiles et c'était cher. Et au moment où ils ont inventé les bas de nylon, les femmes étaient enchantées. Mais les fabricants, ils pensaient que les bas de nylon c'est trop solide. Et comme ça, ils ont fait un rendez-vous avec les chimistes. Et ils ont dit qu'il faut le faire pas si solide, plus fragile, s'il vous plaît. Ils ont cherché des combinaisons chimiques. Ils ont mis des autres substances dans la mélange. Et comme ça, c'est un peu moins solide.
Un peu moins solide, donc on a là encore délibérément fabriqué des bas qui se déchirent pour en vendre plus, hein, c'est ce qu'on comprend. Bon, cela dit, ça c'était au début du siècle, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Oui, je vais vous le démontrer, je vais vous emmener dans un atelier où on teste la résistance des produits. Je me suis rendue dans une usine de la société Maped, une société française qui fabrique du matériel de bureau, crayons, stylos, compas, feutres, règles ou ciseaux. On est avec Patrick Gavel, le responsable de cet atelier.
Alors on se trouve dans le labo qualité, Alors devant nous actuellement, on a une machine qui teste la durée de vie des ciseaux. On donne au ciseau une certaine note de performance en lui faisant pratiquer différentes coupes sur différents supports. Et on va pratiquer des cycles de 20 000 coupes consécutives.
Ça prend combien de temps ?
Le test complet peut prendre jusqu'à 15 jours.
15 jours donc de test, pourquoi précisément ?
Tout simplement pour évaluer la résistance, donc la qualité, et par là même fixer la durée de vie du produit. Et vous allez comprendre comment, écoutez.
On travaille beaucoup en fait par comparaison, c'est-à-dire qu'on prend des articles existants et on mesure, je dirais, le niveau de performance qu'on a sur ces articles existants. Le but étant de faire au moins équivalent, voire mieux si le procédé de fabrication le permet.
Vous ne visez pas à faire le plus solide possible ?
On mesure les articles qui sont similaires et on détermine comme ça le niveau de performance à viser.
Oui, ce qu'on entend clairement, c'est on regarde ce que fait la concurrence et on fabrique une paire de ciseaux qui dure un tout petit peu plus longtemps que les autres. Hein. Donc effectivement, là encore, on fabrique volontairement un produit à durée de vie limitée. Mais pourquoi, Anne Brunel, est-ce qu'on ne cherche pas tout simplement à faire le meilleur produit possible ?
Tout simplement parce que la qualité, la durabilité, ça a un impact sur le prix. La grande qualité, ça revient plus cher.
Et alors, si on paye un peu plus cher, mais que ça dure plus longtemps, on est quand même gagnant ?
Oui, sauf que quand c'est cher, eh bien, ça ne se vend pas. C'est un problème auquel s'est justement heurté François Dufournet. C'est l'ingénieur en charge de la R&D chez MAPED, la recherche et développement.
Ouais.
Voilà. Il a, lui, la fierté d'avoir conçu une règle incassable, mais le résultat, c'est qu'elle est aussi incassable.
On a dans notre gamme une règle totalement incassable à partir des bouteilles recyclées. Donc là, on est vraiment un produit qui allie à la fois la performance du développement durable et qui est totalement incassable. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'elle est un peu plus chère, elle ne rencontre pas le succès escompté par rapport à un produit traditionnel qui serait proposé à un prix plus faible.
Mais c'est fou d'entendre ça, ça veut dire qu'un bon produit ne se vendrait pas. C'est vrai ça, les consommateurs ne veulent vraiment pas de ces produits-là ?
En réalité, les consommateurs, ils ne les connaissent tout simplement pas ces produits. Parce qu'en fait, les grands distributeurs n'en veulent pas, ils ne les mettent pas en rayon. Bernard Roux de Bézieux, le directeur marketing de MAPED, connaît parfaitement, voire comprend ce mécanisme de refus.
Un distributeur cherche à défendre son activité qui est de maximiser son chiffre d'affaires et ses marges. Il n'a pas une mission biblique de distribuer un maximum de produits. Et par expérience, il sait que des produits très chers auront dans beaucoup de cas du mal à trouver leur public.
Voilà, c'est clair, hein, on part du postulat qu'un produit cher ne se vend pas, donc on fabrique des produits pas chers, mais à la durée de vie limitée. Alors on a vu que c'est le cas pour des produits courants, hein. On a parlé des ciseaux, des règles, mais c'est aussi le cas aujourd'hui pour des produits plus sophistiqués comme les ordinateurs ou les imprimantes.
Oui, ce sont là des produits beaucoup plus coûteux et c'est pourtant là que le phénomène du renouvellement forcé est le plus criant. Écoutez plutôt ce que m'a raconté cet ingénieur informaticien. Martin Timinski dirige une société de maintenance, c'est-à-dire qu'il équipe des entreprises en matériel bureautique. Il m'a parlé en particulier d'un modèle d'imprimante réputé écologique qu'on recharge non pas avec des cartouches classiques, mais avec des blocs de cire de couleur pour ne créer aucun déchet, mais elle pose quand même problème.
Le problème de ces imprimantes, c'est qu'à l'époque, nous avons équipé nos clients justement en tablant sur l'écologie. Donc nous avons acheté 5 ou 6 imprimantes toutes en même temps. Et bizarre, toutes ces imprimantes, au bout de 3 ans, sont tombées en panne pratiquement en même temps. On a fait appel au service technique Xerox. Le technicien, il est venu, il a juste branché l'ordinateur sur l'imprimante et l'imprimante, elle est répartie. Bien qu'il a facturé 480 euros de réparation. Donc c'est comme s'il y avait un programme dans l'imprimante qui dit « dans 3 ans, tu t'arrêtes ».
Ça veut dire qu'on aurait volontairement conçu ces machines pour qu'elles s'arrêtent au bout de 3 ans ?
En tout cas, pour faire en sorte qu'elles aient besoin de maintenance. Mais attendez, le plus beau reste à découvrir. Écoutez la suite.
Vu les prix de la réparation de l'imprimante, souvent on se dit « on rajoute 100 euros de plus, on achète une nouvelle imprimante, on l'installe, on prend les anciennes cartouches, les stocks des cartouches qu'on avait ». Souvent, on avait des clients qui avaient plus de 1000 euros de cartouches. Ah ben non, elles ne rentrent pas dedans. Exprès, ils ont changé la forme pour ne pas pouvoir utiliser la cartouche dans une nouvelle imprimante.
Oui, sans cartouche, évidemment, on ne peut pas imprimer. Donc, il faut en racheter de nouvelles. Alors bon, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler de la vente forcée. Comment est-ce qu'on justifie ça chez Xerox ?
On ne le justifie pas vraiment. On répond que l'obsolescence programmée ne fait pas partie de la philosophie de l'entreprise et que vous pouvez avoir une garantie à vie pour peu que vous n'excédiez pas un nombre de pages fixé à l'avance, et surtout que vous achetiez chaque année justement la série de 4 blocs de cire colorée.
Ouais, si je n'achète pas de recharge, en fait, je suis pas couvert par la garantie, donc j'ai pas le choix. Hein.
Oui, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et ça fonctionne de la sorte pour tous les matériels informatiques, imprimantes, ordinateurs et bien sûr les téléphones portables. Écoutez Frédéric Bordage, il est consultant en numérique responsable et a fondé la communauté greenit.fr. Pour lui, on provoque là aussi l'obsolescence des appareils, mais en utilisant un autre moyen, on joue sur la fréquence des mises à jour logicielles.
Jusqu'à maintenant, les mises à jour des systèmes d'exploitation, c'était tous les 2-3 ans. Et donc on pouvait tirer jusqu'à 4-5 ans la durée de vie d'un ordinateur. Aujourd'hui, sur un smartphone qui devient finalement l'ordinateur de monsieur et de madame tout le monde, la mise à jour, elle est en permanence. Au fil de l'eau, on rajoute des petites couches de logiciels, on rajoute du gras numérique, et petit à petit, notre smartphone s'engraisse jusqu'à temps de s'enliser, de pédaler dans la semoule finalement, et on en arrive à une situation où c'est devenu tellement lent, certes c'est à jour, certes on a les dernières versions des logiciels, mais c'est devenu tellement lent qu'on en change, quoi.
Et cette mécanique, ben, on peut pas se cacher qu'on en est largement complice, parce qu'il est bien rare qu'on aille vraiment au bout de la vie de son ordinateur ou de son téléphone.
Oui, alors ça c'est un aspect des choses, hein, Anne Brunel, mais il y en a un autre, il arrive aussi qu'un téléphone ou un ordinateur d'ailleurs, ça tombe en panne. Et alors, là aussi, tout est fait pour que vous en rachetiez un neuf.
Oui, c'est flagrant. Alors ça, je me suis livré un petit test pour voir si on pouvait obtenir une réparation. Vous allez voir, le résultat est assez édifiant.
Bonjour, bienvenue chez Apple. Veuillez patienter. Quelqu'un va vous aider.
J'ai donc fait appeler la hotline d'Apple par une personne qui avait renversé de l'eau sur le clavier de son Mac.
Oui, je vous écoute.
Je veux savoir juste le prix de la réparation pour un clavier, monsieur.
Si effectivement il n'y a que le clavier à changer, etc., on peut varier à peu près entre 80 jusqu'à 230 € à peu près, vous voyez. Et ça peut être beaucoup plus si vraiment le système interne est touché sur des tarifs qui sont assez élevés.
C'est-à-dire quand si la carte mère est touchée, c'est ça?
Exactement. Si par exemple la carte mère a été touchée, on arriverait parfois sur plus d'un millier d'euros de réparation.
Mais pourquoi vous ne la réparez pas, la carte mère? Vous la changez, c'est ça?
Tout à fait, exactement. C'est automatiquement un changement de la carte mère.
Oui, alors c'est très clair, hein. On ne répare pas, purement et simplement, on change la carte mère, du coup, effectivement, on vous pousse à la dépense.
Et c'est beaucoup plus cher, mais vous n'aurez finalement pas à payer grand-chose, parce que vous allez voir, il y a une astuce.
À ce prix-là, je me demande s'il ne faut pas racheter un ordinateur.
Si vous avez payé votre Mac en carte bleue, l'assurance bancaire par exemple, sur les appareils électroniques, si vous voulez. Donc allez vous renseigner auprès de votre banque, et dans ce cas-là, c'est une assurance contre la casse sur les appareils électroniques.
Ah oui, on vous pousse là, hein, on l'entend, à faire jouer votre assurance pour payer plein pot un appareil qu'on ne va surtout pas réparer.
Oui, et le résultat, c'est qu'on jette les ordinateurs, les téléphones, les téléviseurs, on alimente une montagne de déchets. Le bilan écologique est catastrophique. L'organisation Les Amis de la Terre l'a chiffré. Camille Lecomte nous le détaille, elle y est chargée des campagnes mode de production et de consommation responsable.
Aux Amis de la Terre, on a évalué que 40 millions de biens chaque année tombaient en panne et n'étaient pas réparés. Au final, c'est 100 000 tonnes de déchets électriques et électroniques qui sont produits pour rien.
France Inter, secret d'info.
Alors, on a vu comment les industriels se débrouillent pour nous proposer des produits dont on limite la durée de vie pour qu'on en achète plus. On a vu qu'on ne les répare quasiment plus, que les assurances sont mises à contribution pour alimenter ce système qui débouche sur un immense gaspillage. Mais alors, on se pose une question toute simple, Anne Brunel. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour éviter ça?
Mais en fait, on agit, mais les choses vont très doucement. En 2015 et 2016, plusieurs textes sont entrés en vigueur en France pour d'un côté donner plus de droits aux consommateurs et d'un autre protéger l'environnement.
Par exemple ?
Eh bien, la loi de transition énergétique de l'été 2015, l'obsolescence programmée, y devient un délit. Peine encourue, 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Il y a déjà eu des condamnations ?
Non, parce qu'il n'y a encore eu aucune poursuite. Aucune affaire n'a émergé, aucun juge n'a été saisi.
Et pourquoi on vient pourtant de voir que l'obsolescence programmée, ça existait bel et bien ?
Bah, tout simplement, m'a confié Camille Lecomte, parce que ce texte n'est pas vraiment applicable.
On a des cas. On pourrait tenter des actions. Par exemple, les nouvelles lampes, les ampoules sont désormais indémontables. Donc quand vous achetez un luminaire, si l'ampoule casse, vous êtes obligé de jeter l'ensemble. C'est une aberration écologique. Ça rentre un autre sens dans la définition de l'obsolescence programmée parce que on contraint l'usage du produit, mais la définition telle qu'elle est inscrite dans le code de la consommation est tellement large et peu applicable qu'on n'ose pas y aller. Les associations de consommateurs réfléchissent aussi et ont peur d'aller en justice face à des gros industriels qui ont aussi beaucoup d'argent disponible pour des frais d'avocat, etc. Donc là, ça rend l'action de la société civile très complexe.
Ouais, si j'entends bien, on a rédigé une loi qui finalement ne sert pas à grand-chose.
Bon, je serais quand même un peu plus nuancée que vous. Il y a d'autres textes, comme la loi consommation, elle aussi assez récente, qui fait que depuis mars 2015, les distributeurs sont obligés d'afficher la durée de disponibilité des pièces détachées, ce qui oblige les fabricants à en prévoir, donc à penser en amont la réparabilité de leurs produits. Et puis depuis mars 2016, les commerçants doivent informer le consommateur que la durée légale de garantie est passée de 1 à 2 ans, ce qui doit amener, là encore, les fabricants à concevoir des objets plus durables.
Et ces obligations-là, elles sont mieux respectées que celles qu'on vient d'évoquer ?
Eh ben, je vous dis franchement, non. Très mal. La direction de la répression des fraudes, la DGCCRF, a effectué des contrôles. Loïc Tanguy en est le porte-parole. Il reconnaît que ça n'est vraiment pas brillant.
Sur les 400 entreprises qui ont été contrôlées, il y avait dans 60% des cas des anomalies. C'est un chiffre qui n'est pas satisfaisant. On ne peut pas se contenter d'un tel nombre de non-conformités. Les actions de la DGCCRF ont conduit à 154 avertissements, c'est-à-dire un rappel à la loi, et à 93 injonctions, donc une mise en demeure, là, c'est un processus très contentieux, et 6 procès-verbaux. Le procès-verbal étant l'étape préalable à une sanction pécuniaire.
Ouais, donc on est plutôt dans le registre de l'avertissement, bien qu'on constate apparemment quand même de nombreuses infractions. Mais alors, pourquoi est-ce que les distributeurs rechignent à informer le consommateur qu'il a droit à une garantie de 2 ans ?
Mais c'est tristement simple à comprendre. Ils ne disent rien de cette nouvelle protection parce que eux-mêmes proposent des garanties commerciales, des garanties étendues qui, elles, sont payantes. Ils ne vont donc pas vanter une garantie de 2 ans gratuite alors qu'eux-mêmes gagnent de l'argent avec leur garantie plus longue.
Ouais, donc si je vous suis bien, ça veut dire que ces nouvelles lois, Anne, elles n'ont quasiment rien changé.
Si, quand même un peu, même si ça ne fait que démarrer. Si on en croit l'avocat Arnaud Gossement, spécialiste du droit de l'environnement, ces textes ont quand même secoué les industriels parce qu'ils indiquent une direction. Ils leur ont dessiné un peu la voie d'une nouvelle logique économique.
Le but d'une loi n'est pas toujours d'envoyer des gens en prison. Le but d'une loi, c'est aussi de modifier une culture d'entreprise. Et cette loi, effectivement, est une petite révolution pour les entreprises, pour certaines, dont le modèle économique pouvait être fondé sur le gaspillage. Là, en l'occurrence, on est en train de dire aux entreprises qu'elles vont pas forcément gagner leur vie en vendant le plus possible de produits, mais en vendant le plus possible de services.
Le plus possible de service, qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Bah, le service, c'est revenir à des pratiques qu'on a un peu oubliées, comme la réparation, mais avec une approche peut-être plus contemporaine. On l'observe par exemple dans le secteur de l'électroménager. J'ai rencontré un dirigeant du groupe SEB, ce sont des précurseurs en matière de durabilité.
Ah oui, c'est ceux qui avaient inventé la fameuse cocotte minute qui dure combien, 20 ans, 30 ans ?
Voilà, on l'a tous eu, nos grands-mères aussi. Eh bien, selon Alain Potreau, vice-président du groupe en charge de la relation client, la durabilité, la réparabilité, c'est une bonne démarche pour fidéliser la clientèle, pour la rendre captive dès l'achat du petit matériel comme un mixeur par exemple.
Un mixeur, bon, c'est clairement un produit qui va valoir entre, on va dire, 45 à jusqu'à 150 euros. C'est un produit qui est tout à fait réparable. Si au bout de 4 ans, si un pignon, par exemple, un engrenage est défectueux, au bout de 5 ou 6 ans, si on vous le remplace, ça vous coûtera, on va dire, quelques euros jusqu'à peut-être 10, 15 euros de pièces détachées, une vingtaine d'euros de main d'œuvre, et vous aurez à nouveau un mixeur qui repartira. L'expérience du service, en fait, fidélise énormément. Les consommateurs nous disent, dès l'acte d'achat, qu'ils vont s'orienter sur un produit pour lequel ils auront l'assurance qu'ils pourront ainsi pouvoir le garder plus longtemps.
Alors, fidélise en emmenant un client satisfait d'être ainsi accompagné sur un produit bon marché vers d'autres produits. Et cette logique nouvelle va même jusqu'à la conception de biens de consommation dont le caractère évolutif devient le principal argument marketing.
Aujourd'hui, avec le robot chauffant, on avait une version qui a été vendue à presque 100 000 exemplaires en France. Aujourd'hui, une nouvelle version est mise sur le marché, qui est connectée, qui permet d'accéder à des centaines, voire des milliers de recettes. Évidemment, les consommateurs précédents pourraient un peu, dans l'esprit du smartphone, se dire « mais il faut que j'en change, et puis on va jeter le précédent », et qu'on ait des appareils qui deviennent jetables technologiquement. On propose en fait aux possesseurs de produits actuels de les faire évoluer, de nous les retourner, et moyennant une participation, on va faire évoluer leur produit pour le mettre au niveau d'un produit de nouvelle génération, alors que c'est des produits qui auront 2 ans.
D'accord, donc là on adapte, on modernise l'appareil et on ne vous oblige plus à en acheter forcément un neuf.
C'est ça, on vend moins les objets que les services associés, c'est-à-dire que le marché se déplace.
Alors, on a vu que de nouvelles lois contre l'obsolescence programmée ont finalement peu d'effet, mais que l'idée de réparer, de moderniser les appareils sans avoir forcément à les changer, fait tout de même son chemin. Autrement dit, il se passe quelque chose, et c'est même presque une petite révolution qui est en train de s'amorcer, Anne.
Oui, très clairement, le modèle économique reposant sur la croissance semble avoir montré ses limites. C'est ce qu'observe Anémone Berès, elle est présidente de la Fédération Envie, réseau d'entreprises qui fonctionne selon ce nouveau schéma qu'on appelle économie circulaire. Il s'agit d'en finir avec la logique du jetable. Et c'est une évolution qui, selon Anémone Berès, convainc de plus en plus d'entreprises.
Il y a de plus en plus d'acteurs économiques, des entreprises, qui comprennent que leur salut ne peut pas être dans une croissance à tout va. Il y a aujourd'hui des fabricants, des producteurs qui ont compris que leur avenir était plutôt dans la fabrication de produits durables, de produits réparables. Ça n'est pas tout à fait le modèle dominant, on ne peut pas le dire, mais je pense que ça touche des entreprises suffisamment conséquentes pour qu'on puisse garder l'espoir.
L'espoir de développer donc une nouvelle façon de faire, moins gaspilleuse. Mais quid de l'emploi alors, Anne Brunel? S'il n'y a plus de croissance, il n'y a pas moins de travail pour fabriquer, pour vendre?
Mais pas forcément, Jacques, parce que la logique du gâchis a aussi son bilan social, que dénonce Camille Lecomte.
Au début des années 2000, on a beaucoup parlé des délocalisations d'usines pour aller vers d'autres pays où la main-d'œuvre est moins chère. Il y a d'autres emplois qui disparaissent aujourd'hui. Dans le plus grand des silences, c'est les emplois de réparateurs. En 10 ans, il y a la moitié des réparateurs français qui ont mis la clé sous la porte.
Et réparer à nouveau donc, ce serait créer ou recréer des emplois?
Mais si on y regarde de près, oui. Ça peut même ouvrir la voie à la création de nouveaux types d'entreprises. Éric Gatineau est le directeur de l'entreprise Envie à Trappes, dans les Yvelines. C'est une entreprise d'insertion qui forme des personnes en difficulté au métier de la réparation, c'est-à-dire qu'ils réparent, puis revendent à bas prix de l'électroménager de qualité. C'est un secteur qui marche bien et qui prend même de l'ampleur.
Ce que l'on constate, c'est que ça grossit et que les personnes qui vont quitter ensuite notre entreprise vont trouver du travail dans les services après-vente de distributeurs de neuf. On est en recherche permanente d'activités nouvelles ou de débouchés nouveaux. Donc on est à l'opposé de l'image d'entreprise qui serait picousée aux subventions ou soutenue à bout de bras. Et c'est créateur d'emplois. Ici à Trappes, on a démarré, on était 16 au début, on est 30 maintenant, avec des taux de croissance de 20% sur les deux dernières années. Donc à l'échelle du territoire, je pense qu'on est aujourd'hui reconnu également sur le plan économique.
On a là l'exemple d'une seule entreprise, mais le réseau Envie, ce sont au total 2500 emplois répartis sur tout le territoire. Et une activité de rénovation en électroménager qui ne fait que croître depuis 5 ans. 71 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012, contre près de 80 millions cette année.
Oui, c'est donc une activité en croissance. Maintenant, au-delà de ce réseau Envie dont vous nous parlez, Anne, plus généralement, est-ce que les perspectives de développement sont vraiment encourageantes?
Les études de l'Institut de l'économie circulaire montrent que ce secteur emploie d'ores et déjà près de 600 000 personnes en France. Et le réservoir d'emplois nouveaux est estimé entre 200 et 400 000 emplois supplémentaires.
Ah oui, autrement dit, ça marche. Maintenant, quand même, pour être juste, pour ne pas non plus enjoliver le tableau, hein, on l'entendait, il faut quand même reconnaître que ce modèle reste minoritaire.
Oui, parce qu'il faut comprendre que l'économie circulaire, ça repose sur l'utilisation de matières premières qu'on appelle secondaires, celles qui sont issues du recyclage de tous nos déchets. Et avec tout ce qu'on jette, on dispose en fait d'un gisement extraordinaire. Mais si vous écoutez Arnaud Gossement, ce juriste spécialisé en droit de l'environnement, vous allez comprendre qu'il y a encore un gros obstacle qui freine le développement de ce nouveau mode de fonctionnement.
Aujourd'hui, l'économie circulaire, qu'est-ce qui fait qu'elle n'explose pas complètement? C'est très simple, c'est le coût bas des hydrocarbures. Des hydrocarbures qui rendent dans la composition des plastiques peu chers, et ça aujourd'hui, ça limite la commercialisation de ce qu'on appelle les matières premières secondaires. Mais le jour où le pétrole va repartir à la hausse, et on sait que ça va être le cas, à ce moment-là, tout simplement, les matières premières secondaires, on va trouver leur intérêt parce qu'elles seront abondantes et à un niveau économique très intéressant pour le consommateur et l'industriel. Et là, vous aurez vraiment une explosion de l'économie circulaire.
Vous voyez, on est à la fin d'une ère, appuyée sur un modèle essoufflé, mais très certainement aussi aux prémices d'une nouvelle ère. Cette transformation aura bien sûr des répercussions et pas des moindres. Hein. C'est tout un équilibre géopolitique qui pourrait bouger si on se met à valoriser massivement ces nouvelles ressources. Les pays pétroliers pourraient s'affaiblir et les continents déchargés comme l'Afrique se retrouveraient en possession d'un vrai patrimoine. Encore faudra-t-il le faire fructifier.
Oui, ça c'est une autre histoire. Merci en tout cas Anne Brunel. Je précise qu'on peut réécouter ou podcaster votre enquête sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Je précise aussi qu'on peut la commenter en vous rendant. Il suffit de se rendre sur la page Facebook de Secret d'Info.